Alexandre Dumas, Salvator, Suite et fin des Mohicans de Paris, tome 4, chapitre 104, les pièces à conviction. Salvator arriva chez M. Jacal juste au moment où M. Gérard commençait sa course effrénée. Pour M. Jacal, on le sait, il n'y avait ni jour ni nuit. À quelle heure dormait-il? Personne ne le savait. Il dormait comme mangent les gens pressés sur le pouce. L'ordre était donné, une fois pour toutes, qu'à quelque heure que se présentât Salvator, il fût introduit. M. Jacal écoutait un rapport qui lui paraissait sans doute être d'un certain intérêt, car il fit prier Salvator de vouloir bien lui accorder 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, Salvator entrait avec une porte juste au moment où l'agent sortait par l'autre. Salvator déposa dans un coin la nappe nouée par les 4 bouts, qui contenait les restes de l'enfant, et Roland, avec un gémissement plaintif, se coucha près de ses tristes reliques. M. Jacal regarda faire le jeune homme en haussant ses lunettes, mais il ne lui demanda point ce qu'il faisait. Salvator s'avança vers lui. Le cabinet n'était éclairé que par une lampe à abat-jour vert. Elle formait un cercle de lumière sur le bureau de M. Jacal, mais le cercle ne s'étendait pas au-delà. Il en résulta que quand les 2 hommes furent assis, leurs genoux se trouvaient parfaitement éclairés, mais que leurs 2 têtes se perdaient dans l'ombre. « Ah !» dit le premier M. Jacal. « C'est vous, cher M. Salvator, je ne vous savais point à Paris. »«
Je n'y suis revenu en effet que depuis quelques jours, » répondit Salvator. « Et à quelles circonstances nouvelles dois-je le plaisir de vous voir? Car, ingrat que vous êtes, on ne vous voit que lorsque vous ne pouvez faire autrement. »
Salvator sourit. « On n'est pas toujours maître de se laisser aller à ses sympathies, » dit-il, « et puis je cours beaucoup. »«
Et d'où venez-vous en ce moment, monsieur le coureur ?»«
Je viens de Vanvres. »
Eh hé, feriez-vous la cour à la maîtresse de monsieur de Marande, comme votre ami Jean-Robert le fait à sa femme? Le pauvre homme n'aurait pas de chance. »
Et monsieur Jacal fourra dans ses fosses nasales une énorme prise de tabac.
« Non, dit Salvator, non, je viens de chez un de vos amis. »
« De chez un de mes amis ?» répéta monsieur Jacal en ayant l'air de chercher.
« Ou une de vos connaissances, j'aime mieux cela. »
« Ah, vous allez m'embarrasser, » reprit M. Jacal. « J'ai peu d'amis, et il m'eût été difficile de deviner, mais j'ai un grand nombre de connaissances. »«
Ah, je ne vous laisserai pas chercher longtemps, » dit le jeune homme d'un ton grave. « Je viens de chez M. Gérard. »«
M. Gérard, » fit le chef de la police en ouvrant sa tabatière et en y creusant jusqu'au fond la place de ses doigts.
« M. Gérard. » « Qu'est-ce que c'est que cela? Mais vous vous trompez, mon cher monsieur Salvator, je ne connais pas le moindre Gérard. »«
Oh, si fait, et un seul mot, ou plutôt une seule désignation, va vous mettre sur la voie. C'est l'homme qui a commis le crime pour lequel vous allez demain faire exécuter monsieur Saranti. »
« Ah bah !» s'écria M. Jacal en reniflant bruyamment sa prise de tabac. « Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites? Vous croyez que je connais cet homme, un assassin? Quoi ?»«
M. Jacal, » dit Salvator, « notre temps à tous deux est précieux. Nous n'en avons à perdre ni l'un ni l'autre, quoique nous l'occupions différemment et que nous le dirigions vers 2 buts opposés. Employons-le donc utilement. Écoutez-moi sans m'interrompre. » D'ailleurs, nous nous connaissons depuis trop longtemps pour jouer aux fins l'un contre l'autre. Si vous êtes une puissance, j'en suis une aussi, vous le savez. Je ne veux pas vous rappeler que je vous ai sauvé la vie, je vous dirai seulement que celui qui portera la main sur moi ne me survivra pas 24 heures.
« Je sais cela, » dit M. Jacal, « mais croyez bien que je mets mon devoir avant ma vie et que ce n'est point en me menaçant. »
« Je ne vous menace pas, et la preuve, c'est qu'au lieu de la forme affirmative, je vais prendre la forme interrogative. Croyez-vous que celui qui portera la main sur moi me survive 24 heures ?»«
Je ne crois pas, » dit tranquillement M. Jacal.
« Je ne voulais pas vous dire autre chose. Maintenant, allons au but. C'est demain que l'on exécute M. Saranti. »
« Je l'avais oublié. Vous avez la mémoire courte, car à 5 heures du soir, aujourd'hui même, vous avez fait prévenir l'exécuteur des hautes œuvres de se tenir prêt pour demain. »« Mais pourquoi diable ce Sarenti vous tient-il tant à cœur ? C'est le père de mon meilleur ami, de l'abbé Dominique. Eh bien oui, je sais cela. Le pauvre jeune homme avait même obtenu un sursis de la bonté royale, 3 mois, car sans cela, il y a 6 semaines que son père serait mort. Il est allé à Rome, je ne sais pourquoi faire, mais sans doute qu'il n'a pas réussi ou qu'il est mort en chemin, on ne l'a pas revu. C'est bien malheureux. Pas si malheureux que vous croyez, monsieur Jacal, car tandis qu'il allait à Rome, sans doute pour obtenir grâce, il me laissait ici pour faire justice. Or, je me suis mis à l'œuvre et, avec l'aide de Dieu qui n'abandonne pas les bons cœurs, j'ai réussi.
Vous avez réussi?
Oui, et malgré vous. C'est la seconde fois, monsieur Jacal.
Quelle était la première?
Bon, vous avez oublié Mina et Justin, la jeune fille enlevée par mon cousin, Laurédan de Valgeneuse. Je crois que je ne vous apprends rien de nouveau, n'est-ce pas, en vous disant que je suis Conrad.
Je dois vous avouer que je m'en doutais.
Depuis que je vous l'ai dit, ou à peu près, dans votre voiture, en revenant du Bas-Meudon, le jour, ou plutôt la nuit, où nous sommes arrivés trop tard pour sauver Colomban, mais assez tôt pour sauver Carmélite, n'est-ce pas ?
Oui, dit M. Jacal, je m'en souviens. Et vous dites donc ?
Je dis que vous savez mieux que moi l'histoire que je vais vous raconter, mais je crois qu'il est important que vous sachiez que je ne l'ignore pas tout à fait. 2 enfants ont disparu du château de Viry. On a accusé M. Sarenti de les avoir fait disparaître. Erreur. L'un, le garçon Victor, a été tué par M. Gérard et enterré dans le parc, au pied d'un chêne. L'autre, la jeune fille, Léonie, au moment où elle allait être égorgée par la concubine Orsola, a poussé de tels cris qu'un chien est venu à son secours et a étranglé celle qui voulait l'égorger. L'enfant s'est sauvé, tout effaré, et sur la grande route de Fontainebleau a trouvé une bohémienne qui l'a recueillie. Vous connaissez cette bohémienne, elle se nomme La Brocante et demeure rue d'Aulne numéro 4. Vous avez été chez elle, avec maître Gibassier, la veille du jour où Rose de Noël a disparu. Or, Rose de Noël n'était autre que la petite Léonie. Je n'ai point été inquiet d'elle, je savais qu'elle était entre vos mains. Je ne vous en parle donc que pour mémoire.
Monsieur Jacal fit entendre une espèce de grognement qui lui était habituel et qui n'était pas sans analogie avec celui de l'animal que rappelait son nom.
Quant au petit garçon, enterré au pied d'un arbre, il est inutile de vous dire comment, avec l'aide de Brésil aujourd'hui, Roland, je l'ai trouvé tout en cherchant autre chose. Vous savez l'endroit, n'est-ce pas ? Je vous y ai conduit, seulement le cadavre n'y était plus.
« Croyez-vous que ce soit moi qui l'ai enlevé ?» demanda M. Jacal en absorbant une énorme prise de tabac.
« Non, pas vous, mais c'est M. Gérard que vous aviez prévenu.
Oh, »« Honnête, M. Gérard, » dit M. Jacal, « si tu entendais ce que l'on dit de toi, comme tu t'indignerais. »«
Vous vous trompez, il ne s'indignerait pas, il tremblerait. »«
Mais enfin, qui a pu vous faire supposer que c'était M. Gérard qui avait enlevé l'enfant ?»
« Oh, je ne l'ai pas supposé. J'ai été certain, et cela du premier coup. Si certain que je me suis dit que ce n'était que dans sa maison de Vanvre, pour plus grande tranquillité, que M. Gérard avait pu transporter ce pauvre squelette. Alors, vous comprenez bien, par une belle nuit comme celle-ci, pendant laquelle il ne faisait ni ciel ni terre, j'ai aidé Roland à sauter par-dessus les murs du jardin de la maison que M. Gérard habite à Vanvre. J'ai sauté après lui et je lui ai dit « Cherche, mon bon chien, cherche !» Roland a cherché, et quoique je ne veuille pas faire l'application des paroles d'Évangile, à un quadrupède, Roland a trouvé. Au bout de 10 minutes, il grattait le gazon de la pelouse avec une telle rage que j'ai été obligé de l'enlever par son collier pour que, le lendemain, on ne vît plus ses traces. J'étais sûr que le cadavre était là. Comme nous étions entrés, nous sortîmes. Seulement, au lieu de jeter Roland du dehors au dedans, je le jetai du dedans au dehors et je le suivis. Voilà toute l'histoire. Vous devinez le reste, n'est-ce pas, monsieur Jacal ? Ce n'est pas M. Sarenti qui est en prison depuis 6 mois, ce n'est pas lui qui, il y a 3 mois, a déterré le cadavre du pied du chêne de Viry pour le transporter au milieu de la pelouse de la maison de Vanvre. Or, si ce n'est pas M. Sarenti, c'est M. Gérard. Me fit M. Jacal, sans répondre autrement que par une exclamation. Mais non, rien.
Oh,
Achevez, vous alliez me demander pourquoi, instruit de la présence du cadavre dans la maison de M. Gérard, je n'ai point agi plus tôt. « Ma foi, dit M. Jacqual, j'avoue que j'allais vous faire cette question par simple curiosité, car ce que vous me racontez ressemble bien plus à un roman qu'à une histoire. » « C'est pourtant une histoire, cher M. Jacqual, et des plus authentiques même. Vous désirez savoir pourquoi je n'ai pas agi plus tôt ? Je vais vous le dire. Je suis un sot, cher M. Jacqual. Je crois toujours l'homme meilleur qu'il n'est. » Je me figurais que M. Gérard n'aurait pas le courage de laisser périr un innocent à sa place, qu'il quitterait la France et que d'Allemagne, d'Angleterre ou d'Amérique, il révélerait tout, mais point, l'ignoble canaille n'a point bougé. Peu, fit M. Jacqual, ce n'est peut-être pas tout à fait sa faute, il ne faut pas lui en vouloir irrémissiblement pour cela. De sorte que, ce soir, je me suis dit, il est temps. « Et vous êtes venu me chercher pour que nous allions ensemble procéder à l'exhumation du cadavre ?»« Non, non, point, je m'en suis bien gardé. Comme nous disons, nous autres chasseurs, on ne prend pas deux fois un renard à la même coulée. Non, cette fois, je fais ma besogne moi-même. »« Comment, vous-même ?»« Oui, voici, en deux mots. Je savais qu'il y avait ce soir un grand dîner électoral chez M. Gérard. » Je me suis arrangé de manière à éloigner pendant une heure ou deux M. Gérard de ses convives. Je suis entré, alors. J'ai pris sa place à la table, tandis que Brésil grattait dessous. Bref, Brésil a si bien gratté qu'au bout d'un quart d'heure, je n'ai eu qu'à jeter la table de côté et à montrer aux convives de M. Gérard la besogne qu'avait faite mon chien. Ils étaient 10, le 11e cuvait son vin je ne sais où. Ils ont signé un procès-verbal tout à fait en règle, puisqu'il y a parmi les signataires un médecin, un notaire et un huissier. Tenez, voici le procès-verbal. Et quant au squelette, ajouta Salvatore en se levant, en apportant la nappe pliée en quatre sur le bureau de M. Jacqual et la dénouant, et quant au squelette, le voici. Si habitué que fut M. Jacqual aux péripéties des drames journaliers qui se déroulaient devant lui, il s'attendait si peu au dénouement de celui-là qu'il recula son fauteuil en pâlissant et, contre son habitude, sans chercher à dissimuler l'émotion qu'il éprouvait. « Maintenant, dit Salvatore, écoutez-moi bien. Je vous jure devant Dieu que si M. Sarranti est exécuté demain, c'est vous, vous seul, M. Jacqual, que je rends responsable de sa mort. C'est clair, n'est-ce pas ? Et vous n'accusez pas mon langage d'ambiguïté. Ainsi donc, voici les pièces à conviction. » Il montra les ossements. « Je vous les laisse. Le procès-verbal me suffit. Il est signé de 3 officiers publics, un médecin, un notaire, un huissier. Je vais de ce pas porter ma plainte au procureur du roi. Et si besoin est, j'irai au garde des Sceaux. J'irai au roi, s'il est nécessaire. » Et Salvatore, saluant sèchement le chef de police, sortit de son cabinet, suivi de Brésil, et laissant M. Jacqual tout étourdi de ce qu'il venait d'apprendre, et on ne peut plus inquiet de la menace qui venait de lui être faite. M. Jacqual connaissait Salvatore de longue date. Il l'avait vu plus d'une fois à l'œuvre, le savait homme de résolution, et était bien convaincu qu'il ne promettait jamais rien qu'il ne pût tenir. Salvatore sortit, et la porte fermée derrière lui, il se demanda donc très sérieusement ce qu'il pouvait faire. Il y avait un moyen bien facile de tout concilier, c'était de laisser tout simplement M. Gérard se tirer d'affaire comme il pourrait. Mais c'était déchirer de ses mains une trame si laborieusement tourdie, c'était faire d'un bonapartiste un héros, plus qu'un héros, un martyr. C'était à la veille des élections transformer un candidat, patronné en quelque sorte par le gouvernement, en un misérable assassin. Sans compter que M. Gérard ne manquerait pas, dès qu'il se verrait pris, de tout avouer en accusant M. Jacqual de complicité. Décidément, ce moyen si facile était un mauvais moyen. Il y en avait un autre, et ce fut à celui-là que M. Jacqual s'arrêta. Il se leva précipitamment, alla droit à la fenêtre et tira un bouton caché dans l'embrasure. Aussitôt, 10 ou 12 sonnettes retentirent depuis le corps de logis qu'habitait M. Jacqual jusqu'à la porte de la préfecture. De cette façon, murmura-t-il en revenant s'asseoir, j'aurai du moins le temps d'aller prendre les ordres du ministre de la Justice. Comme il achevait ces mots à demi-voix, un huissier annonça Monsieur Gérard.